les Amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Sabrina Robert-Quende, professeure de droit public à l'Université du Mans, nous propose une lecture des enjeux de la lutte contre les changements climatiques au regard du droit international. Premier épisode, l'architecture internationale pour la protection du climat, de Rio à Paris.
Bonjour aux auditrices et auditeurs d'Amicus Radio. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter l'architecture internationale de lutte contre les changements climatiques. Cette architecture, elle se dessine à Rio en 1992. C'est l'année où est organisée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies la première conférence sur le climat. À l'issue de cette conférence, les États adoptent la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Celle-ci est ratifiée par 197 États parties. C'est donc un traité qui est véritablement universel. Alors, comme son nom l'indique, c'est un traité cadre. Ça signifie qu'il pose les grands objectifs du droit international du climat. Alors, pour l'essentiel, il s'agit de maîtriser les émissions anthropiques, c'est-à-dire les émissions qui viennent de l'activité humaine, des gaz à effet de serre, qui sont les causes principales des dérèglements climatiques. En revanche, la Convention cadre ne contient pas d'engagement précis sur les actions concrètes qu'il convient de mener pour maîtriser le phénomène de changement climatique. Ce sont des instruments complémentaires qui doivent venir préciser ces actions. La Convention cadre pose aussi les grands principes juridiques qui doivent guider l'action des États. Alors je ne vais pas passer tous ces principes en revue, je vais parler du plus important. C'est le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Ce principe, il n'est pas propre au droit du climat. On le retrouve dans la plupart des accords multilatéraux sur l'environnement. Et il repose sur le fait que certains États, les États développés, industrialisés, ont une responsabilité historique dans les dommages à l'environnement d'origine anthropique. Par conséquent, ces États doivent supporter des obligations consolidées à la hauteur de cette responsabilité. Alors, quant aux pays en développement, ils ne sont par principe pas exempts de tout engagement, mais ils bénéficient d'aménagements, de périodes d'adaptation et parfois même de soutien, comme un soutien financier de la part des pays développés, pour les aider à concilier leurs besoins de développement économique avec la nécessité de protéger l'environnement. Ici, pour ce qui nous intéresse, de lutter contre les changements climatiques. Alors voilà pour le cadre très général. La Convention cadre, c'est la pierre angulaire de l'architecture internationale de lutte contre les changements climatiques. Mais elle n'en est pas l'unique pièce. Il faut lui adjoindre des instruments complémentaires qui vont préciser les engagements concrets des États pour limiter le phénomène de changement climatique. Le premier de ces instruments complémentaires, c'est le protocole de Kyoto, qui est signé en 1997 et qui entre en vigueur en 2005. Cet accord, il lie aujourd'hui 191 États. Alors, le protocole de Kyoto, c'est un traité très complexe, mais on peut le présenter à travers trois principales caractéristiques. La première caractéristique du protocole de Kyoto, c'est qu'il comporte des engagements précis et chiffrés d'abaissement des émissions de gaz à effet de serre qui s'imposent aux États développés. Le traité prévoit par exemple que la France, sur la période 2008-2012, ne doit pas émettre plus de 92% des émissions par rapport aux années précédentes. Avec le protocole de Kyoto, on est donc dans une approche dite « top-down ». L'engagement chiffré est posé dans le traité international, il est imposé du haut, après avoir été négocié avec les autres parties contractantes. La deuxième caractéristique du protocole de Kyoto, c'est qu'il fait une application extrêmement rigoureuse du principe de responsabilité commune mais différenciée dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut dire en quelque sorte que le protocole de Kyoto divise le monde en deux blocs. D'un côté, les pays industrialisés, on va parler des pays de l'annexe 1, et de l'autre, les pays en développement. Les pays industrialisés supportent des obligations fermes de diminution des émissions de gaz à effet de serre, je viens de le dire. Les seconds, en revanche, les pays en développement ne supportent aucune obligation de ce genre. Autrement dit, le protocole de Kyoto instaure un système de solidarité internationale à géométrie très variable. Et ce système, il a pu paraître d'autant plus inéquitable que certains États, comme la Chine et l'Inde, dont on sait qu'ils sont parmi les plus gros pollueurs, se retrouvent dans le groupe des pays en développement, donc des pays qui n'ont pas d'engagement de baisse des émissions de gaz à effet de serre. La troisième caractéristique du protocole de Kyoto, c'est qu'il met en place des mécanismes de flexibilité qui permettent de vendre ou d'échanger des droits à émettre des gaz à effet de serre, soit entre pays industrialisés, soit entre pays industrialisés et pays en développement. J'aurai l'occasion de développer l'un de ces mécanismes dans le deuxième épisode de cette émission. Alors le bilan de l'accord du protocole de Kyoto, il est assez mitigé. D'une part, en termes de participation des États, il y a eu deux grosses déceptions. Les États-Unis, qui ont participé à la négociation, qui ont signé le protocole, ne l'ont jamais ratifié. Ils n'ont donc jamais eu à respecter des engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et le Canada, qui avait ratifié le traité, s'en est retiré en 2012. Quant aux résultats concrets qui ont été obtenus par les pays industrialisés, on note sur la période de référence 2008-2012 une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais en réalité, celle-ci est surtout due à la crise financière de 2007-2008 qui a entraîné un ralentissement des activités industrielles, notamment en Europe de l'Est.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
À 19h30, Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation. L'accord est historique.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
Tous les pays, même ceux que l'on annonçait les plus réticents, saluent un accord historique.
C'est une grande victoire pour l'humanité, parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures.
Nous pouvons rentrer en étant fiers et confiants. Le monde a écouté les petites îles.
Barack Obama, à son tour, salue l'événement.
Il y a quelques heures, nous avons réussi. Tous ensemble, nous nous sommes réunis autour d'un accord fort dont le monde a besoin.
Un projet qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, avec objectif de descendre à 1 degré 5.
Comme un seul homme, 195 nations se sont levées pour célébrer cette victoire. Dans la salle du Bourget, l'accord de Paris pour le climat est adopté.
À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique.
L'accord de Paris, c'est aujourd'hui la pièce maîtresse de l'architecture internationale de lutte contre les changements climatiques. Comme on l'entend dans l'extrait des archives gouvernementales que l'on vient d'écouter, la conclusion de cet accord, elle a eu lieu en décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la fameuse COP21. Et cette signature, elle a été saluée comme une véritable réussite historique, voire même comme une révolution. Alors pourquoi c'est une révolution? Pourquoi c'est une réussite historique? Parce que à l'ouverture des négociations en décembre 2015, il n'était vraiment pas acquis que cette négociation pourrait aboutir. La France, qui a présidé la COP21, était favorable à l'adoption d'un accord contraignant. Mais d'autres États, et en particulier les États-Unis, y étaient opposés et voulaient une formule beaucoup plus soft. Et puis surtout, à plusieurs reprises avant 2015, dans les années précédentes, les négociations climatiques avaient systématiquement échoué à l'adoption d'un nouvel accord. Au final, donc, l'accord de Paris, c'est un instrument de compromis. Alors c'est un véritable traité international. Il est contraignant, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour les États qui l'ont ratifié. Aujourd'hui, il y a 183 parties contractantes. Mais les engagements qu'il contient laissent une très grande marge de manœuvre aux États dans la définition et la mise en œuvre de leur politique publique climatique. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est que l'accord de Paris bouleverse totalement l'équilibre instauré par le protocole de Kyoto. D'une part, l'obligation de diminuer les émissions de gaz à effet de serre s'impose désormais à tous les États, c'est-à-dire aux pays développés et aux pays en développement, à la hauteur, bien évidemment, de leur capacité économique. Et d'autre part, les engagements chiffrés d'émissions de gaz à effet de serre ne sont plus posés dans l'accord lui-même, ils ne viennent plus du haut, ils sont définis individuellement par chaque partie contractante dans ce que l'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Alors cela signifie que toutes les parties contractantes sont obligées de prendre des engagements de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Toutes les parties contractantes ont l'obligation de consolider ces engagements, c'est-à-dire que l'accord ne leur permet pas de revenir en arrière. Mais les objectifs chiffrés sont définis unilatéralement par chaque partie contractante au niveau national. L'approche retenue, elle est donc différente de celle du protocole de Kyoto, puisque là, on est dans une approche bottom-up. La souveraineté des États est ménagée, puisqu'ils gardent la maîtrise des efforts qu'ils sont prêts à faire dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. L'accord de Paris apparaît également comme un engagement souple, soft, dans la mesure où, en cas de non-respect par une partie contractante de ses engagements, il n'est pas possible d'adopter des sanctions contre cet État. Mais en réalité, l'efficacité normative de l'accord repose sur d'autres mécanismes. Alors, il y a plusieurs mécanismes, je n'en citerai qu'un. La procédure de non-respect repose sur le contrôle exercé par un comité non juridictionnel qui peut être saisi en cas de défaillance d'une partie contractante, c'est-à-dire au cas où une partie contractante ne parvient pas à atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Et dans ce cas-là, le comité peut adopter un rapport, et ce rapport n'a pas pour but de condamner les manquements de la partie en défaut, mais plutôt d'enclencher une procédure de soutien à cette partie, à cet État, qui a des difficultés à satisfaire ses engagements et à développer avec elle des mécanismes qui vont lui permettre de satisfaire ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. En somme, cet accord de Paris, il repose avant tout sur la confiance mutuelle que les États s'accordent les uns les autres. Alors c'est un pari pris sur une nouvelle forme de gouvernance climatique mondiale qui n'est plus contraignante, qui repose sur une normativité souple. Mais dans ce domaine, il semble clair que l'incitation et la solidarité entre les États seront de toute façon plus efficaces que la contrainte et la sanction. Voilà pour aujourd'hui, pour cette présentation générale de l'architecture internationale sur les changements climatiques. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour approfondir cette architecture à travers le droit de l'Union européenne.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.